pour cette première lecture que nous avons. Il faut nous remettre un petit peu dans le contexte. C'est, vous vous souvenez, Élie qui est en train de faire la leçon à Acab, à Jézabel, à ces rois du Nord qui ont introduit le paganisme. Jézabel, c'est la reine des Phéniciens, la fille du roi des Phéniciens. Et donc, elle pratique sa religion, elle offre des cultes au Baal. Et puis, Acab, son mari, bien, se laisse gagner peu à peu, se laisse influencer. Et donc, le prophète Élie vient annoncer que le ciel va se fermer parce que Dieu ne donne plus sa bénédiction sur cette terre qui redevient païenne. Et d'où cette sécheresse? Et Élie, donc, qui lui non plus n'a plus rien à manger, il est victime comme les autres de cette sécheresse, et il va chez cette veuve, annoncée divinement par le Seigneur, pour que cette veuve lui donne à manger. Et cette veuve, eh bien, s'exécute quand le prophète lui demande, et elle va chercher ses dernières réserves de farine et ses dernières réserves d'huile, après quoi elle mourra parce qu'elle n'a plus rien. Peut-être le premier enseignement qu'on peut tirer de ce récit, c'est que cette veuve, malgré la nécessité, malgré la famine, elle n'oublie pas la charité. Peut-être mourra-t-elle quelques jours plus tôt dans son idée, mais au moins, elle aura pu accomplir ce geste d'ouverture, d'accueil du prophète. Vous voyez que c'est important parce que à chaque fois que dans nos vies nous souffrons, que nous sommes réduits à quelque extrémité que ce soit, par la santé, par un deuil, par une déception, par un échec, très souvent nous avons tendance à nous replier et à fermer les portes de toute générosité. C'est certainement quelqu'un qui est proche de Dieu pour pouvoir pratiquer cela. Que ce soit déjà comme ce premier enseignement que nous puissions tirer. C'est la première bonne nouvelle de ces textes. On voit bien que l'Évangile aujourd'hui fait écho à cette veuve de Sarepta. Ce sont ces pharisiens, ces grands qui vont donner au temple de leur richesse, de leur bien, en faisant sonner de la trompette, comme le dira Jésus dans un autre texte d'Évangile. Et puis Jésus, qui est assis, il tire son enseignement de son observation. Il est assis devant le temple et il regarde. Il voit cette veuve approcher et mettre ses deux petites pièces. Et lui qui connaît le cœur des hommes, il sait qu'elle a donné ce qu'elle avait pour vivre. Voilà, les autres ont donné de leur superflu, elle a donné de son indigence, dira Jésus. Comme c'est important pour nous aussi. Parfois, nous sommes très généreux pour masquer le manque du don de notre propre cœur. Nous offrons beaucoup de feuilles, comme disait le père Lamy, pour ne pas offrir de fruits. Voilà, ce qui nous est demandé, c'est ne pas être comme Caïn, mais être comme Abel. Vous savez, dans l'Ancien Testament, ce qui fait la différence entre le sacrifice de Caïn et le sacrifice d'Abel, c'est qu'on dit que de Caïn qu'il offrit les fruits de la terre. Mais on dit d'Abel qu'il offrit les bêtes de son troupeau, qui lui appartenaient, quelque chose de lui-même. Et nous, tant que ça ne nous touche pas, alors on peut donner tant qu'on veut, ça ne nous dérange pas beaucoup. Vous voyez, c'est ce qui nous oriente vers ce que les pères de l'Église, qu'un saint François de Sales, appellera le sacrifice de son Isaac. Quel est dans mon cœur ce dont je ne veux vraiment pas me détacher? Ce à quoi je tiens le plus? Ce qui finalement me fait vivre humainement, disons. Alors vous qui allez vous engager dans le mariage, ou qui peut-être le projetez en tout cas vers des fiançailles, Il y a parfois des biens dont on ne veut pas se séparer. Ça peut être les biens matériels. Quand on a vécu une vie confortable de célibataire, c'est pas si facile que ça. Mais il y a aussi cette autonomie, ce désir de liberté qu'on a vite fait dans notre société d'idolâtrer. Je ne veux plus dépendre, que ce soit de Dieu ou que ce soit de mon futur conjoint, de ma future épouse. Ça peut être un trait de caractère dont on dira « Non, ça fait partie de moi, surtout on n'y touche pas, je suis comme ça, il faut me prendre tel que je suis. » Alors, on a souvent affaire à des gens un peu acariâtres quand ils nous tiennent ce genre de discours. On a envie de leur dire « Mais peut-être que tu pourrais quand même un peu changer. » Ça peut être la relation avec ses parents. Combien, peut-être de fils, de filles, trouvent que c'est finalement assez rassurant d'aller chez papa-maman et puis de conserver une certaine sécurité affective sans se lancer complètement dans la vie conjugale qui demande vraiment de larguer les amarres. Et ça, il faut pouvoir le sacrifier. Voilà, quelles sont les grosses sommes qu'on donne et quelles sont ces deux piécettes qu'on ne donne pas. En réfléchissant un petit peu sur ce texte, je me souvenais d'une parole du père Sérac, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un prêtre jésuite qui a beaucoup servi en Inde et au Cambodge, dans les camps de réfugiés, et qui aimait citer cette phrase « Qui n'a pas tout donné, n'a rien donné ». Ah, phrase magnifique, phrase choc, mais je me demandais, est-ce que c'est bien réaliste? Est-ce que moi je suis en train de tout donner? Est-ce que je donne tout? Est-ce que quelqu'un d'entre nous ici donne tout? Je me permets très sincèrement d'en douter. Parce qu'il y a peut-être une mauvaise façon de comprendre cette phrase-là. Il ne s'agit pas de faire des inventaires en comptant ce qu'on a dans son trésor, en disant ben, « ça je l'ai donné, voilà, ça y est. Je suis quitte maintenant, il ne me reste plus rien. » Il ne s'agit pas de cette forme de don, où finalement on sera encore dans une espèce de mesure quantitative. Il s'agit d'introduire en soi un principe qui va nous faire changer de l'intérieur. Alors, en accompagnant certains d'entre vous hier, je le disais, accueillir une personne dans ma vie. C'est magnifique. J'ai quelqu'un dans ma vie. Ce que certains d'entre vous peuvent dire qui cheminaient. Et oui, c'est beau, dans ma vie, dans ce que j'ai de plus intime, dans mon cœur, dans mon âme. Ou est-ce que je l'ai simplement dans ma périphérie, dans la petite réserve, à côté de la cuisine, voilà, et puis je vais la voir quand ça me fait du bien. Combien parfois de relations sont un peu de ce type-là, finalement utilitaristes. Il y a une très belle pièce, permettez-moi de le citer, d'un dramaturge qui s'appelle Ibsen, qui s'appelle « Maison de poupée », où effectivement, l'homme a mis une petite poupée dans sa maison. Et puis, elle lui sert, elle lui fait la cuisine, elle est gentille, elle est jolie, elle sourit à ses invités. Mais à un moment donné, elle se révolte. Et elle dit, voilà, j'existe, je suis une personne. J'ai quelqu'un dans ma vie. Ah, pour le meilleur et pour le pire, peut-être, mais certainement pour le meilleur. Parce que fonctionner en circuit fermé, ça nous rend inhumains. Ça nous rend indigne de la vie d'une certaine façon. Accueillir quelqu'un dans sa vie, c'est, oui, lui faire un chèque en blanc, mais avec confiance que ce ne sera pas des dépenses qui vont nous mettre sur la paille non plus. Voilà, donner autrement dit cette racine de mon être, c'est-à-dire cette autonomie, cette liberté, ce désir de disposer de moi-même, ce désir d'être le seul maître de celui que je serai demain. Non, un autre, une autre, aura barre sur moi au meilleur sens du terme, non que je sois manipulé, non que je subisse des pressions, mais ce que je serai demain, je le devrai à celui qui m'accompagne. Est-ce que je l'accepte ou non? Et on peut aller un peu plus loin, c'est-à-dire que accueillir quelqu'un dans ma vie, c'est aussi accueillir Dieu dans ma vie. Accueillir un principe qui va me modifier. C'est, comme le dit l'Évangile, accueillir cette mesure de levure qui va faire lever toute la farine. Autrement dit, accueillir la grâce. La grâce, elle ne me laisse pas indemne non plus. Ou pour le dire autrement, accueillir la foi. La foi comme centrale. Trop souvent, et peut-être moi le premier, nos fois sont périphériques. Là aussi, elles vont dans le pourtour de ce qui m'appartient, mais elles ne vont pas être dans le cœur de mon cœur. Et nous voyons bien le temps que nous laissons à Dieu, la place que nous lui laissons, c'est peut-être quand on a été voir les parents, les amis, qu'on a fait son sport, qu'on a fait son yoga, qu'on a fait sa peinture du dimanche ou du samedi. Est-ce qu'il reste du temps ? Ah ben non, il ne reste plus de temps. Ah ben, on ira à la messe la fois prochaine. Vous voyez, c'est des choses qui nous guettent parce qu'on a beaucoup de mal à accueillir la Seigneurie du Christ. On veut bien que Dieu fasse partie du paysage, du folklore. Ça nous permet d'avoir des relations avec des gens charmants autour de nous qui partagent, comme on dit, nos valeurs, peut-être certaines de nos convictions. Mais le Seigneur est-il celui de ma vie ? Dieu est-il mon maître ? Je me permets de dire ça, il y a quelque temps, nous avons accueilli quelques convertis de l'islam. Comme cela est marquant. De voir que, parfois du jour au lendemain, ils ont dû tout quitter pour être fidèles au Christ, pour se retrouver dans notre pays qui a bien des qualités, mais qui n'a souvent pas celle de la chaleur humaine qu'on trouve dans les pays du Maghreb, qu'ils ont accepté de sacrifier cela pour le Christ, comme le Christ est devenu central dans leur vie, comme ce sont des confesseurs de la foi. Si la foi n'est pas centrale dans nos vies, si elle reste périphérique, nous pouvons gager qu'elle sera fragile. Nous pourrons gager aussi qu'elle sera ennuyeuse. Une foi périphérique, c'est comme avoir un caillou dans sa chaussure, quelques préceptes moraux qui nous empêchent de tourner en rond, de faire ce qu'on veut, dont on finira un jour ou l'autre par se débarrasser. Si la foi n'est pas embrassée de tout son cœur, de toute sa vie, elle ne demeurera pas dans nos vies. Une dernière remarque, surtout, on ne verra pas la beauté de cette foi. À quel point elle nous vivifie, à quel point elle donne un sens et une joie à tout ce que nous touchons. Je pense qu'on peut lire aussi les deux textes de la première lecture et de l'Évangile en lien avec la vie même du Christ. Jetons un œil simplement sur le texte de la lettre aux Hébreux. Il nous est dit que le Christ n'offre pas un sacrifice comme le grand prêtre en offrait. Que faisait le grand prêtre ? Il offrait un sang. Oui, mais un sang qui n'était pas le sien. Le Christ offre un sang. Oui, mais un sang qui est le sien. Et c'est ce qui fait toute cette différence. Le Christ s'offre jusqu'au bout. Le Christ, pour le coup, a appliqué parfaitement cette phrase. Celui qui n'a pas tout donné n'a rien donné, et lui a vraiment tout donné. Il ne lui reste rien. Et c'est pour cela que le Christ est exalté. Le Christ ressuscite. Le Christ entre dans cette gloire et dans cette joie. C'est son expérience, mais c'est aussi celle qu'il nous transmet. Si nous sommes baptisés, c'est pour cela. C'est pour mettre nos pas dans les siens. Si demain vous voulez recevoir le sacrement du mariage, c'est aussi pour cela. C'est vivre au cœur même de votre relation ce mystère pascal. Voyez, la veuve de Sarepta, la veuve de l'Évangile, ce sont des figures du Christ finalement. Parce qu'elle se prépare à faire cette expérience de Pâques. Tout donner, mourir pour être vivifié. Oui, Il faut en faire l'expérience, parfois quand on passe par des moments difficiles, qu'on a fait un gros sacrifice pour la vie commune, le sacrifice parfois de pardonner à l'autre. Et si c'est en profondeur, s'il y a du répondant chez l'autre aussi, on verra qu'une nouvelle vie peut éclore, qu'à ce moment-là, cet amour conjugal prend comme une nouvelle lumière, que notre relation au Christ prend un nouvel intérêt. Chers frères et sœurs, Marie n'a rien gardé pour elle. Elle a tout donné, ce qu'elle avait reçu. Elle a été glorifiée. Qu'elle nous enseigne ce chemin.